Merci d'avoir téléchargé ce podcast, 5 prises de conscience indispensables pour sortir du mode survie. Je suis Valérie, créatrice du blog Maman en quête d'équilibre, blog qui héberge une partie de mon cerveau depuis quelques années déjà. Alors à qui s'adresse ce podcast? Eh bien, il s'adresse aux mamans qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie au risque de se retrouver un jour en panne sèche. Et tout particulièrement à celles qui vivent ou ont vécu des expériences douloureuses qui les bousculent encore aujourd'hui. Si vous avez téléchargé ce fichier audio, vous aspirez probablement à changer certains aspects de votre vie. Sachez que même si votre environnement actuel est peu propice au changement, vous avez la possibilité d'initier des transformations. En effet, qu'on le veuille ou non, tout change, tout le temps. Il est impossible de rester tel que l'on est aujourd'hui, car le temps continue son œuvre. Regardons la nature autour de nous. Les cycles se succèdent. Le bourgeon devient fleur, qui à son tour se transforme en fruit. Le fruit mûrit, puis il flétrit. S'il n'y a pas évolution, il y a régression, mais jamais de statu quo. On ne peut donc pas ne pas changer, car c'est le propre de la vie que d'évoluer. Alors à nous d'opérer les changements que nous souhaitons, ou de choisir de laisser les circonstances extérieures décider de notre évolution. Car oui, c'est un choix de laisser faire à notre place. C'est le choix de ne pas agir et d'attendre de voir ce qu'il se passera. Le jour où j'ai compris que ne pas choisir était un choix, j'ai enfin réalisé qu'il était urgent de choisir et de décider à nouveau de ce que je voulais voir dans ma vie. Avouez que, vu sous cet angle, vous aussi commencez à vous dire que tant qu'à choisir, autant faire les meilleurs choix pour vous. La bonne nouvelle, c'est que tout changement vient de l'intérieur. Oui, c'est bien à l'intérieur de nous que se mettent en place les transformations et les changements extérieurs. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Qu'avez-vous mangé hier soir? Demandez-vous, comment votre repas est arrivé à votre table? Quelle que soit la stratégie que vous ayez adoptée, cuisinez vous-même ou achetez tout prêt, vous avez d'abord eu l'intention de manger ce plat. Puis vous êtes passé à l'action, en allant faire les courses ou pourquoi pas la récolte dans le potager. Avant d'être devant vous, ce repas a donc existé dans votre tête. C'est la première prise de conscience indispensable pour sortir du mode survie. Nous avons le choix du changement que nous voulons voir se concrétiser. Voilà un premier message porteur d'espoir, n'est-ce pas? Vous savez maintenant si ce podcast est fait pour vous ou non, mais vous ne savez pas encore pourquoi je l'ai créé. Eh bien en fait, je souhaite partager avec vous les informations que j'aurais aimé avoir quand ma vie a basculé de façon radicale il y a quelques années. À défaut de pouvoir m'appuyer sur un guide du mode survie, j'ai fait comme j'ai pu. Et c'est ce que nous faisons toujours finalement. Faire de notre mieux, avec les moyens dont nous disposons à chaque moment de notre vie. Alors permettez-moi de partager avec vous cette tranche de ma vie très douloureuse et les enseignements que j'en ai tirés. Douloureuse, c'est peu dire, car en quelques semaines, épreuves et bonheurs se sont succédés et ont généré chez moi des tsunamis d'émotions intenses. Mais commençons par le début. À cette époque, j'avais en charge un service dans l'agence pour laquelle je travaillais depuis plusieurs années déjà. Mon responsable hiérarchique venait de changer, et à un travail chaque jour moins intéressant, venait ainsi de s'ajouter un N+1 du type premier de la classe, totalement aveuglé par les chiffres, et pour qui l'humain n'était que contrainte finalement. C'est dans ce contexte que le 7 février, lors d'une réunion, j'apprends que mon poste va disparaître dans la réorganisation régionale. Vous comprendrez que je note précisément cette date, car il y a eu un avant et un après ce jour porteur de mauvaises nouvelles. Je continuerai à avoir un travail, certes, mais sa nature même allait changer, et cela signifiait un niveau de responsabilité moindre, une grande perte d'autonomie et un lot de tâches rébarbatives en perspective. Et ça, je n'étais pas prête à l'accepter. Mes remarques et questions en réunion me valurent une convocation dans le bureau du directeur d'agence dès le lendemain. Et de façon très violente, j'ai alors compris que je n'avais aucun choix si je voulais conserver un emploi dans cette entreprise. Non seulement mon N+1 a critiqué ma façon de gérer le service sans aucune raison valable, mais en plus il a aussi remis en cause ma prime si je ne rentrais pas dans le rang. Bref, du chantage et des manœuvres d'intimidation de la part d'un manager toxique. C'était un vendredi, j'ai fini la journée comme j'ai pu. Tout le week-end, je n'étais que l'ombre de moi-même. Et le lundi matin, après avoir pris rendez-vous chez le médecin, je suis retournée travailler comme une zombie. Toute la matinée, je suis restée terrée dans mon bureau, les larmes au bord des yeux, la peur au ventre de laisser percer au jour mon état intérieur et d'exploser à la vue de tous. À la pause déjeuner, je suis allée chez le médecin qui m'a mise en arrêt de travail. J'étais enceinte de 6 mois. Une semaine plus tard, j'ai essayé de retourner travailler. Mais nouvel arrêt au bout de 2 jours. J'étais bien incapable de faire comme si de rien n'était. Les jours passaient, et même en étant éloignée de l'entreprise, je restais sous l'emprise de l'annonce de ce changement et du travail de sape que mon directeur continuait à mener à distance. Je suis restée en lien avec mes collègues, et je vivais toujours intensément les émotions de ce qui se préparait pour mon retour de congé maternité. J'avais totalement oublié que j'étais enceinte, tellement j'étais obnubilée par mon travail, ou du moins par le changement à venir. Et puis un jour, j'ai pris conscience que mes inquiétudes accaparaient totalement mon cerveau. Certes, je n'avais aucun pouvoir sur ce qui se préparait dans l'entreprise, car ça ne dépendait absolument pas de moi. Et en ce sens, je n'avais pas de choix possible si je voulais rester dans l'entreprise. En revanche, j'avais le choix de me laisser pourrir la vie, ou pas. Car quoi qu'il arrive, mes pensées m'appartiennent et dépendent totalement et uniquement de moi. J'ai alors décidé de couper les ponts avec les collègues et de me recentrer sur ma famille. C'est la deuxième prise de conscience que je veux partager avec vous. Quel que soit notre environnement, nous sommes 100% responsables de nos pensées. Alors choisissons-les en conscience. Et pour tout ce qui ne dépend pas de nous, accepter ce qui est et lâcher prise nous libère de ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. Accepter ne veut en aucun cas dire que nous sommes d'accord, mais simplement que nous reconnaissons la réalité de ce qui est, de ce qui existe. Alors ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, le 11 mai, j'ai mis au monde ma fille par voix basse alors qu'elle était en siège complet. J'avoue que ce n'est qu'après coup que j'ai réellement compris que l'accouchement était suffisamment risqué pour nécessiter la présence de 5 personnes autour de moi. Mais l'important, c'est que nous étions toutes les deux en bonne santé après notre exploit. Et j'étais impatiente et heureuse de présenter leur petite sœur à mes 2 grands-enfants de 8 et 13 ans. Ce jour-là, j'ai eu l'impression de les redécouvrir. C'était comme si ces dernières semaines, j'avais été auprès d'eux sans même les voir. Entre les soucis du travail et la surveillance rapprochée de l'accouchement et du risque que je ne voulais pas voir, je n'étais plus moi-même. Mais ma fille et moi avions passé le cap de l'accouchement et le brouillard se levait doucement dans ma tête. C'est sans doute pour cela que ce jour-là, quelque chose dans la façon de se tenir de mon fils de 13 ans a attiré mon attention. Il me semblait instable, passant d'une jambe sur l'autre, basculant d'avant en arrière. Quand je lui en ai parlé, il m'a demandé un mot pour être dispensé de sport le lendemain car effectivement, il avait du mal à marcher. Nous avons donc prévu d'aller chez le médecin à ma sortie de la maternité. Et je me suis ensuite recentrée sur le bonheur d'être une nouvelle fois maman et sur mon bébé. Le jour du rendez-vous chez le médecin est arrivé. Verdict : il faut aller aux urgences pédiatriques, faire des examens complémentaires après le grand week-end qui débute. Ok. J'avoue que je n'y ai pas porté grande attention à ce moment-là. Ma fille et les difficultés de la mise en place de l'allaitement sont restées mes priorités. Enfin, je crois. D'un côté, il y avait le mot urgence, et de l'autre, attendre la fin du week-end. Peut-être que cette incohérence a suffi pour que mon cerveau décide de ne pas prêter trop attention à ce que je venais d'entendre. La fin du week-end venue, mon fils part donc aux urgences avec son papa. Et moi, comme prévu, je vais à la PMI faire peser ma fille qui a du mal à reprendre du poids. Mon conjoint ne cesse de me téléphoner, et quand je finis par répondre, il me passe aussitôt le médecin des urgences qui me dit que mon fils doit rester à l'hôpital. C'est grave, il va falloir faire une IRM, une biopsie, peut-être l'opérer en urgence. Ok, Ça me sort enfin de ma léthargie, ou plutôt du déni dans lequel j'étais, puisque j'avais jusque-là mis de côté toutes les informations qui pouvaient me préparer à cette annonce. Je file à l'hôpital avec ma fille, des questions plein la tête, des larmes plein les yeux. Dès notre arrivée, nous sommes prises en charge pour éviter de rester dans le hall des urgences avec un bébé de quelques jours. Mais je n'obtiens aucune réponse concrète. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas encore, mais c'est grave. À chaque fois, c'est une même réponse qui n'en est pas une. Après 3 jours d'examen, d'angoisse et d'incompréhension, le neurochirurgien nous répond enfin. Mon fils a une tumeur à la moelle épinière. Il faut l'opérer d'urgence car le fonctionnement des bras et des jambes est déjà touché. Comme dans toute opération, le risque vital existe. Et dans son cas, il y a un fort risque de tétraplégie. Que tout ce qui est en dessous de la tumeur ne fonctionne plus. Et la tumeur est au niveau des cervicales. Et là, oui, ma vie bascule. Même si, dans un premier temps, fidèle à moi-même, je reste forte et explique à mon fils que l'opération va le guérir. Mon quotidien se transforme ensuite en torrent de larmes, d'incompréhension, de douleur et de fatigue. Puis, semaine après semaine, je guette les progrès de mon fils qui, après l'opération, pouvait juste parler et appuyer sur la pompe à morphine. Le reste du corps ne répondait pas. Pendant plusieurs mois, j'ai ensuite été en mode survie. Une survie active, très active même. Car avec 3 enfants, dont un bébé et un enfant hospitalisé qui luttait pour retrouver ses fonctions vitales, ce n'est pas l'occupation qui m'a manqué. D'autant plus que mon conjoint n'a pas pris sa part. Et dans ce tourbillon quotidien, je me suis totalement investie pour mes enfants. À tel point que, 3 mois après l'accouchement, épuisée physiquement et mentalement, j'ai demandé de l'aide à une psychologue de l'hôpital. Elle m'avait laissé sa carte alors que mon fils sortait de réanimation. À ce moment-là, je pensais que le plus dur était déjà passé. Je me trompais. Je l'ai donc sollicité car je voulais arrêter de pleurer pour pouvoir retourner travailler. J'avais perdu tous mes repères et je ne pouvais me raccrocher à rien de sécurisant. Et pendant des mois, j'ai donc pleuré avec ma psy 1 heure par semaine. J'ai rapidement lâché mon objectif d'arrêter de pleurer, en fait, et de retourner travailler aussi, d'ailleurs. Au contraire, je crois que je me suis autorisée à pleurer, à dire ce que j'avais sur le cœur. Et j'avais plusieurs années de larmes en stock. Au fil du temps, je m'étais forgé une cuirasse blindée qui m'aidait à me couper de mes émotions. Et avec les derniers événements de ma vie, il y a eu un trop-plein qui a fait se rompre toutes les digues de mon cœur. C'est la 3e prise de conscience que je souhaite partager avec vous. Autorisez-vous à vivre vos émotions au moment où elles arrivent, à les accueillir, à les laisser s'exprimer. Quel que soit le moyen que vous choisissez, la parole ou l'écriture par exemple, mais aussi la danse, la peinture, choisissez ce qui vous convient le mieux. Car tout ce que nous n'exprimons pas s'imprime dans nos cellules et peut affecter notre santé mentale ou physique. Je vais m'arrêter là pour cette période de vie. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans ce que je viens de vous raconter. Si vous avez téléchargé ce podcast, vous avez probablement vécu une expérience similaire qui a fait basculer votre vie. Et il me semble important de préciser qu'il n'y a pas de petit ou grand traumatisme. Car après cette épreuve, plusieurs personnes m'ont dit « Je ne devrais pas me sentir si mal pour si peu, c'est rien à côté de ce que toi tu as vécu. » Alors laissez-moi vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Ce que l'on vit nous touche au plus profond de nous. Peu importe que ce qui arrive aux voisins paraisse pire. Pour ma part, j'étais déjà très très mal à cause de ce changement de poste qui se profilait dans mon travail. Et je ne sais pas où cela m'aurait mené sans la maladie de mon fils. Alors comme je vous le disais au début de cet audio, quand tout ça m'est tombé sur la tête, il me manquait un kit de survie pour affronter les épreuves. Et pourtant, mes lectures ne me suffisant plus, depuis environ 6 ans, je suivais régulièrement des formations de développement personnel, notamment en PNL. J'avais donc fort heureusement déjà amorcé un travail sur moi-même et fait tomber certaines croyances limitantes. Par exemple, pendant une grande partie de ma vie, j'ai eu la croyance que j'étais responsable du bonheur des autres. Heureusement que je m'étais débarrassée de cette croyance avant l'opération de mon fils. Je crois que c'est ce qui m'a permis de ne pas laisser la culpabilité m'envahir. Car tout ce que je faisais auparavant était guidé par cette responsabilité que je portais inconsciemment. Vous vous demandez peut-être Quelle forme pouvait prendre cette croyance? Eh bien, par exemple, à partir du moment où mon fils a commencé à aller à l'école, j'ai organisé toutes les petites vacances scolaires pour que mes enfants puissent passer du temps avec leurs grands-parents et que les grands-parents puissent ainsi profiter de leurs petits-enfants. Alors bien sûr, au début, j'étais très contente de ce mode de fonctionnement. Je pensais même que cela me facilitait la vie. Pourquoi? Parce que je pouvais faire de plus grosses journées de travail, bien sûr. Pendant une semaine, je ne voyais pas du tout mes enfants et vivais au boulot. Et la semaine suivante, j'avais une mamie à domicile, ce qui me permettait aussi d'avoir une plus grande amplitude de travail. Génial! J'avais tout mis en place pour que la famille et le travail soient prioritaires. Prioritaire sur quoi, me direz-vous? Sur moi, tout simplement. Parce qu'à la longue, la situation me pesait. Par exemple, j'avais envie de prendre moi aussi quelques jours de congé pour changer d'air pendant ces petites vacances. Alors, j'ai commencé par emmener ma belle-mère en vacances avec nous, pour continuer à prendre soin du bonheur des autres. Eh oui. Mais cette solution ne me satisfaisait pas pleinement non plus. Et le jour où, en formation, j'ai pris conscience de cette croyance que je me sentais responsable du bonheur des autres, je l'ai remplacée par la croyance « je suis responsable de mon bonheur ». Et les choses ont alors commencé à s'améliorer pour moi. C'est la quatrième prise de conscience indispensable pour sortir du mode survie. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. En revanche, vous êtes la seule responsable de votre propre bonheur. Voilà qui est libérateur, non? Mais j'avoue que ça met une certaine pression. Une fois la responsabilité de mon propre bonheur acceptée, un énorme point d'interrogation a surgi. Mais comment faire pour prendre soin de mon bonheur? J'étais en plein tâtonnement quand ma vie a basculé. Mes deux coups de cœur étaient alors les vacances à vélo en famille et voyager à l'étranger en auberge de jeunesse. Et tout ça sans ma belle-mère, s'il vous plaît. En quelques mots, je résumerai cette idée du bonheur à prendre son temps, découvrir, pédaler au marché, être dehors en pleine nature ou en ville, du moment que ce soit là où j'ai envie d'être. Alors c'est sûr qu'avec un enfant à l'hôpital et un bébé, ces bonheurs retrouvés m'ont vite échappé. Mais la question n'a cessé de tourner dans ma tête. Parfois en arrière-plan, certes. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est le bonheur? J'ai un début de réponse. C'est l'équilibre, ou du moins sa recherche. Voilà pourquoi je suis partie en quête d'équilibre avec ce blog il y a quelques années. Je continue aujourd'hui mon cheminement par des lectures et des formations, et aussi par l'écriture d'articles. Cela me permet à la fois de garder trace de ce qui me semble essentiel et de le partager. Mais surtout, je passe à l'action. Car s'il est certain que les événements de mon passé ont influencé ma vie, il est hors de question qu'ils déterminent mon avenir. Je peux le dire aujourd'hui, car j'ai dépassé la phase où je pensais que, de toute façon, maintenant, le travail, ça m'est égal, le plus important, c'est mes enfants. Encore une fois, avant de le comprendre, j'en ai fait les frais. Notamment en acceptant de travailler sur un poste qui ne me convenait pas pendant un an, parce que je pensais que ce n'était pas important. Mais je me suis rendu compte que je dépérissais à force de mourir d'ennui jour après jour. Heureusement, j'ai fini par me réveiller et me dire que je n'avais pas vécu tout ça pour rester là à regarder passivement ma vie défiler. Alors maintenant, je teste, avec plus ou moins de succès, ce qui m'attire et je prends conscience que je veux créer ma vie chaque jour. Et nous avons tout ce pouvoir de création en nous. Notre corps est capable d'accueillir un enfant pendant 9 mois, alors notre cerveau peut bien accueillir chacun de nos projets en gestation pour aller vers notre idéal de vie, n'est-ce pas? Mais loin de moi l'idée de vous dire « prenez-vous en main, passez à l'action, vous avez le pouvoir de changer votre vie ». Non, ce n'est pas l'objet de ce podcast. En revanche, je vous propose de prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Même si, ou plutôt surtout si, vous souhaitez prendre soin de vos enfants, de vos proches, car votre réserve d'énergie n'est pas inépuisable. Il est donc primordial de la recharger. Et vous seul êtes en capacité de le faire. C'est la cinquième prise de conscience indispensable pour sortir du mode survie. Pour prendre soin des autres, vous devez d'abord prendre soin de vous. Quelle que soit la teneur de vos vies, prenez ne serait-ce que 10 minutes par jour pour vous, exclusivement pour vous. Ce qui compte, c'est que vous vous mettiez dans une démarche active pour prendre soin de vous, en écoutant vos besoins et en y répondant au mieux, compte tenu de vos possibilités. 10 minutes pour lire, 10 minutes pour marcher en plein air, 10 minutes pour chanter, 10 minutes pour dormir. Écoutez-vous et soyez consciente que vous prenez soin de vous par cette action. Et petit à petit, vous serez à nouveau en capacité de rêver. Et rêver est juste essentiel pour avoir de nouveaux projets et commencer à construire sa vie idéale. Voilà, j'espère que cet audio vous a été utile. J'ai choisi de prendre des tranches de ma vie pour illustrer les prises de conscience indispensables pour sortir du mode survie, parce que je suis persuadée que l'on intègre plus facilement les choses en les expérimentant. Pour autant, vous imaginez bien que j'aurais préféré ne pas connaître personnellement ces épreuves. Et je crois que vivre certains événements par le biais d'une tierce personne et des émotions qu'elle partage peut être aussi impactant que de le vivre soi-même, et amener ainsi à des prises de conscience fondamentales pour faire évoluer sa propre vie. Avant de terminer, laissez-moi récapituler les 5 prises de conscience indispensables pour sortir du mode survie. 1. Choisissons les changements que nous voulons voir se concrétiser dans nos vies. Créons-leur un espace pour qu'ils prennent vie dans nos têtes et dans nos cœurs. Car ne rien faire pour changer est un choix, celui de subir les changements que la vie mettra sur notre chemin. 2. Quel que soit notre environnement, nous sommes 100% responsables de nos pensées. Alors choisissons-les en conscience. Et pour tout ce qui ne dépend pas de nous, accepter ce qui est et lâcher prise nous libère de ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. 3. Autorisons-nous à vivre nos émotions au moment où elles arrivent, à les accueillir, à les laisser s'exprimer. Car tout ce que nous n'exprimons pas s'imprime dans nos cellules et peut affecter notre santé mentale ou physique. 4. Nous sommes seuls responsables de notre propre bonheur. 5. Pour prendre soin des autres, nous devons d'abord prendre soin de nous. Et pour prendre soin de vous, je vous invite à découvrir les articles du blog Maman en quête d'équilibre, notamment la série sur la psychologie positive qui tend à promouvoir des attitudes positives et des moyens de trouver une énergie suffisante pour affronter les difficultés plutôt que de ne pas les voir ou leur tourner le dos. Ce podcast est à écouter sans modération et à transmettre à toutes celles qui pourraient y trouver une aide. Merci de votre contribution.